Voilà, alors comme on a parlé, nous allons ouvrir la parole dans le livre d'Ésaïe et au premier chapitre. Et nous allons lire les 9 premiers versets. Ésaïe, chapitre 1, et commençons au verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz. Sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Et c'est la parole de Dieu. On ne s'étonne pas si on appelle Ésaïe le prophète évangélique. Il devait être dans une église évangélique parce que c'est tout à fait moderne comme description. Quand il parle au sujet du pays, là, de la nation, rappelons-nous que ce n'est pas simplement une nation politique, mais c'est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et en fait, il ne donne aucun espoir sauf ce faible reste. Et on pense à plus loin dans sa prophétie, quand il parle de ce rejeton qui sort, qui n'attire pas les regards. Mais aujourd'hui, on va regarder non pas ces 9 versets, parce qu'il y aurait beaucoup trop à sortir, mais les 2 premiers mots. Alors, je ne sais pas si c'est une série qu'on commence et puis qu'on va aller jusqu'au chapitre 66. Ça risque de prendre un moment. Mais les 2 premiers mots, prophétie d'Ésaïe. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi face au livre d'Ésaïe. C'est un livre qui est long, 66 chapitres quand même, et c'est un livre qui est complexe, très complexe. Et franchement, il y a des passages qui sont très obscurs, très difficiles à saisir. Et en même temps, on rencontre des gens qui nous parlent de tous les trésors qu'ils sortent de la lecture d'Ésaïe. Parmi les prophètes, c'est peut-être celui qui est le préféré. Et on a l'impression que ces gens-là, quand ils ont besoin de se délasser, alors ils lisent quelques pages d'Ésaïe. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Enfin, moi, ça m'est arrivé surtout dans la dernière partie de ce livre. On commence à lire un peu, on dit, tiens, je vais prendre peut-être un texte pour une lecture, pour un culte, ou quelque chose comme ça. Et puis avant qu'on s'aperçoive, on a déjà lu une dizaine de chapitres, autour des chapitres 40, 45 et tout ça. Et en fait, il y a dans Ésaïe une grande richesse, des trésors. Et il faut creuser quand même, parce que c'est une prophétie qui est un peu compliquée. Elle nous vient dans des termes qui ne sont pas des termes ordinaires. Ésaïe, en fait, c'est un prophète qui est un peu bizarre quand on réfléchit. La mention de tous les rois où il est, pendant lesquels il a prophétisé, mais aussi le fait qu'il a commencé à prophétiser l'année, enfin, il a été appelé, où il a eu cette vision, l'année de la mort du roi Ozias, ça nous indique qu'Israël vivait une période de stabilité politique. Il y avait même une certaine affluence dans le pays. Et voilà que Ésaïe se lève et il annonce un message de jugement. Alors, c'est un peu bizarre. Et on pourrait dire, mais franchement, Ésaïe, tu n'as aucune idée. Parce que, bon, le jugement qui était déjà décidé ne va pas venir avant pas mal de temps. Mais voilà Ésaïe qui vient avec cette prophétie qui parfois semble claire, lumineuse, d'autres fois très obscure. Et on a de la difficulté, il y a même des gens qui ont imaginé qu'il y avait plusieurs Ésaïe pour écrire ce livre. Mais pas du tout. Mais voilà. Donc, si on est un peu dans ce sens-là, de se demander un petit peu comment est-ce qu'on va prendre Ésaïe, alors on va essayer de passer quelques temps avec des petits passages comme ça qu'on fait ressortir d'Ésaïe. Et aujourd'hui, j'aimerais garder un peu le message général de ce livre, un livre prophétique, et le message général. Alors, c'est assez simple en fait, c'est assez simple, parce que le message de tout le livre tient en un seul mot. Message, un seul mot. Donc c'est assez simple. Et en fait, ce mot, qui est le message général du livre, c'est le nom du prophète. Le nom du prophète. Quel est le message d'Ésaïe? Eh bien, c'est Ésaïe. Alors, maintenant qu'on est tous réveillés, attentionnez. Comme souvent dans la parole de Dieu, et peut-être même parmi nous aujourd'hui, on donne aux gens des noms qui ont un sens. Et il y a un ami qui est un prédicateur au Cameroun, dans une petite ville. Alors il a sa première année, je crois, il l'a appelé Grâce divine. Alors il voulait donner un message par rapport à ce qu'il avait compris dans la parole de Dieu. Venant d'un milieu d'où il venait, c'était un peu du n'importe quoi, j'ose espérer que peut-être une des conférences à laquelle il était l'avait guidé dans cela. Mais voilà, il a voulu montrer que la grâce, la caractéristique principale de la grâce de Dieu qu'il avait touchée, l'avait impacté, et c'est une grâce qui est divine, une grâce qui n'est pas faite parmi les hommes, pas fabriqué de l'homme. Voilà. Et Ésaïe, c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce que ses parents lui ont donné ce nom-là? Ça semble assez clair, parce que Ésaïe signifie « l'Éternel est salut » ou « le salut de l'Éternel » ou encore « l'Éternel sauve ». C'est assez proche de Jésus, en fait. Vous voyez? Donc voilà le message d'Ésaïe. L'Éternel sauve et l'Éternel délivre. C'est un peu tout cela. Alors on se demande quel est le message et l'essence de ce grand livre de l'Ancien Testament, où les gens peuvent nous le demander. Et c'est tout simplement que l'Éternel sauve. Que l'Éternel sauve, que l'Éternel est salut. Et c'est intéressant de souligner cela, parce que Ésaïe se lève au milieu du peuple de Juda. Et le peuple de Juda, c'est un peuple qui, en fait, se reposait sur lui-même. Il était en pleine décadence, malgré son affluence économique et sa stabilité politique, mais il était en pleine décadence spirituelle et il se reposait sur cette loi. Déjà, il y avait les germes de ce qui va provoquer, bien entendu, la déportation, mais aussi les germes de ce qui va amener à l'existence le parti des pharisiens. Alors les pharisiens ne sont pas des gens particuliers, c'est peut-être ceux qui ont incarné le plus ce qui est dans chaque être humain. Et dans chaque être humain, il y a ce penchant à vouloir être son propre sauveur. On est toujours à chercher en nous-mêmes, ou tout au moins avoir la tentation, la tendance à chercher en soi-même quelques bases pour obtenir la faveur de Dieu. Ésaïe vient et il coupe complètement ce message. On l'a vu les dernières semaines avec d'autres passages, mais que en fait, le salut ne vient pas par l'homme pécheur tout au moins. Il vient par l'homme avec un grand H. Mais avant de nous pencher sur cette première phrase-là, ça vaut le coup de s'arrêter un instant et pour faire ressortir quelques points saillants qui seront peut-être une encre dans la confusion qui règne aujourd'hui. Et le premier point qu'on voit ici, c'est, je l'intitule, la parole qu'on voit. La parole qu'on voit. Alors quand on lit le premier verset d'Ésaïe, dans le français, ce n'est pas très évident. Prophétie d'Ésaïe, et ainsi de suite, qu'il a prophétisé au temps de tous ses rois. Ce n'est pas évident. Mais dans l'original, c'est beaucoup plus frappant. En fait, on devrait lire la vision qu'Ésaïe a vue. La vision qu'Ésaïe a vue, et ainsi de suite, au temps de ces gens-là. Et si on va au chapitre 2, verset 1, la même chose se produit avec une toute petite différence, parce que là, nous devrions lire la parole qu'Ésaïe a vue. Donc, la parole qu'Ésaïe vit dans le chapitre 2, c'est la parole qu'Ésaïe a vue. Mais c'est la même chose. Et c'est assez surprenant, n'est-ce pas? Parce qu'on s'attendrait à lire, on ne s'attendrait pas à lire cela du tout. On trouverait plus normal de lire au sujet d'une parole divine que le prophète a entendue. Par exemple, on pourrait s'attendre à lire la prophétie qu'Ésaïe a prononcée. Il a entendu de Dieu un oracle, parole, et il la prononce, ou quelque chose de ce genre-là. Mais non, c'est une vision, c'est une parole qu'il a vue. Alors, si on réfléchit un peu, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal d'instructions là. Des fois, quelqu'un vous explique quelque chose, je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire. Vous voyez, je ne vois pas. Alors, on explique mieux ou d'une manière différente. Ah, maintenant je vois. Je vois. Alors, on est exactement dans le même registre. Parce que, je ne suis pas en train de défaire ce que Philippe a dit tout à l'heure au sujet de l'oreille et d'entendre, mais quelquefois, le prophète, le prédicateur, va prononcer quelque chose, mais ce n'est pas entendu. Ou ce n'est pas écouté. Ou alors, on va écouter, mais on ne s'en rappelle plus. Et quand on voit, il y a une focalisation. Et là, la parole que Dieu donne à son prophète, en fait, c'est une vision. C'est une vision. Et le mot « vision » qui devrait être dans ce premier verset devrait nous étonner. C'est un mot très particulier qui indique clairement que c'est une communication divine. Ce n'est pas quelque chose que le prophète a compris par lui-même, a déduit. Non, c'est une communication divine. On est ici, on n'est pas en présence de pensées que le prophète aurait concocté, assemblé face à une situation. Il est face à ce Judas, cette partie sud du peuple d'Israël, avec Jérusalem. Il voit certaines choses. Et il commence à imaginer, voilà, si on continue dans ce sens-là, Dieu va nous juger. Ce n'est pas du tout cela, du tout, du tout. C'est au contraire Dieu qui vient et qui parle à Ésaïe, qui lui fait voir ce que Dieu veut dire. Ce n'est pas quelque chose que le prophète aurait simplement prononcé pour ramener la nation dans le droit chemin. En fait, il est un porte-parole. Et Dieu lui donne une vision, une communication divine. Alors, Dieu parle. Mais effectivement, le prophète doit exercer ses capacités mentales et intellectuelles pour saisir cette révélation. Mais celle-ci n'est pas de sa fabrication. Alors, deux versets dans le Nouveau Testament peuvent nous aider à comprendre cette tension-là. On a toujours cette difficulté. Est-ce que les prophètes étaient un peu des automates? Dieu leur donnait quelque chose, il fallait qu'ils rabâchent ou qu'ils répètent simplement la chose. Ou est-ce que les prophètes étaient des acteurs à part entière? Et en fait, on voit très bien, parce que chaque prophète a son style. On ne peut pas se tromper. Si on va dans Jérémie, on sait qu'on n'est pas en train de lire Ésaïe, et ainsi de suite. Et j'ai travaillé dernièrement sur les petits prophètes, mais là, c'est encore beaucoup plus clair. Non, le prophète est là, et il est pleinement impliqué dans la chose, mais c'est Dieu qui parle. Et donc, deux versets dans le Nouveau Testament peuvent nous aider. Alors, le premier, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1. Ce sont des passages que vous connaissez. Et les versets 10 à 12. 1 Pierre 1. C'est d'ailleurs, on remonte un peu plus haut, on voit que Pierre parle du moment où Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Donc vous voyez, on est déjà là dans le contexte de voir. Et les prophètes, avant d'être des gens qui déclaraient, c'était des gens qui voyaient. C'est d'ailleurs un des termes qu'on utilisait pour eux. Mais verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » Et ainsi de suite. Les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder. La réflexion de l'homme n'était pas déconnectée. On n'a pas affaire à simplement des scribes ou des machines, des enregistreurs, pas du tout. Ils devaient creuser le sens de leur prophétie, de leur vision et de leurs paroles. Ah. Et ceci pourtant se situe dans un cadre qui ne se limite pas aux capacités du prophète. C'est une communication divine, c'est une révélation, mais le prophète est pleinement impliqué dans la chose. Alors, le second texte qui peut nous aider, c'est en 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas des fables habilement conçues, il nous dit au verset 16. C'est une révélation donnée par Dieu, du même genre que la vision donnée aux trois apôtres sur la montagne. Et regardez au verset 17 et 18. « Car il a reçu de Dieu le Père, parle de Christ, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Là, on sait très bien à quoi Pierre fait allusion. C'est le moment de la transfiguration. Le moment de la transfiguration. Une révélation divine. Les prophètes ont la même chose que ce qui était donné sur la montagne de la transfiguration. Seulement, chose intéressante, Pierre dit que la parole prophétique doit être tenue pour d'autant plus certaine que la vision. Pourquoi ? Verset 21, parce que ce n'est pas par une volonté d'homme, c'est Dieu qui se révèle. Dans la transfiguration, vous vous rappelez que même Pierre, il était là, il racontait du n'importe quoi. Il ne comprenait pas les choses, ils étaient spectateurs. Mais les prophètes ont parlé de la part de Dieu et cette parole est d'autant plus certaine, d'autant plus certaine. Autrement dit, c'est Dieu qui parle, et quand nous lisons la prophétie d'Ésaïe, quand nous l'étudions, quand nous la méditons, nous réfléchissons en fait à ce que le Saint-Esprit lui-même a soufflé, une révélation qui, selon la Bible elle-même, est bien plus sûre que la vision de la transfiguration elle-même. Et c'est quelque chose de merveilleux, parce que, et c'est tout le point de Pierre, là. En fait, il est en train de dire à ses interlocuteurs ou à ses destinataires de sa lettre, il est en train de leur dire, ne pensez pas que vous arrivez trop tard. Vous savez, l'histoire, on dit, ah, mais si seulement on avait été au temps des apôtres, ça aurait été beaucoup plus facile. Ouais, quand on analyse un petit peu leur réaction, on s'aperçoit que ce n'était pas plus facile du tout. Il dit, en fait, non, vous avez la même chose, parce que vous avez cette prophétie, et la prophétie est d'autant plus claire. Quand on voit ce que Paul écrit ou ce que Pierre écrit, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont vu dans cette vision, l'un sur la route de Damas ou au troisième ciel et tout ça. Non, ils parlent de cette parole, révélation de Dieu qu'il a donnée à ses serviteurs. Donc le Saint-Esprit lui-même a soufflé et c'est quelque chose de sûr. Et pourquoi passer du temps là-dessus? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il nous faut cesser de courir après des révélations sensationnelles dont notre génération est très friande. Alors, peut-être vous allez dire, bon, nous, on ne court pas trop après ça, mais on est entouré de gens qui cherchent des choses sensationnelles, des choses qui frappent la chair. On en parlait encore hier. Ce sont des mirages mensongers, ces choses-là. Un apôtre Christ lui-même, et pas des moindres, c'est Pierre, celui qui est toujours mentionné en premier dans les listes. Un apôtre de Christ lui-même nous atteste que la parole des prophètes est plus sûre et solide que la transfiguration elle-même. Et donc, on peut ne pas être désarçonné par toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, que nous entendons. On a tendance à les écarter, mais ce n'est peut-être pas nécessairement la bonne solution. Il faut au contraire nous affermir d'autant plus à partir de la parole biblique, de la parole des serviteurs de Dieu, à qui Dieu s'est révélé. Ce qu'il a dit est plus important que ces choses spéciales, encore pour autant qu'elles soient vraies, parce qu'aujourd'hui on a un peu du n'importe quoi. La deuxième raison pour laquelle il est bon de s'arrêter sur ces choses, c'est qu'il nous faut cesser de douter de l'Écriture. Alors, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on doute de l'Écriture? Parce que beaucoup d'entre nous, on n'ira jamais jusqu'à dans cette voie des visions, des transes et tout ça. Mais il est possible que nous ne croyons pas l'Écriture, que nous ayons des doutes par rapport à l'Écriture. Alors, on peut être choqué à entendre ça, mais pourquoi lisons-nous si peu cette Écriture? Pourquoi est-ce que nous la sondons si peu? Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers toutes sortes d'avis, de conseils, de choses de ce genre, avant ou plutôt que de s'en remettre à l'Écriture qui est seul animé de l'Esprit Saint? Pourquoi voulons-nous introduire d'autres choses comme d'autres activités, d'autres pensées dans la manière de voir comment vivre devant le Seigneur? C'est quelque chose qui est très insidieux parce que ça nous semble tout à fait logique de comprendre les choses, de voir, ah oui, c'est comme ça qu'il faut qu'on avance, plutôt que d'être à l'écoute de ce que Dieu dit. Et si ça n'est pas, si nous ne sommes pas touchés par ça, alors réjouissons-nous Mais il faut dire que peut-être nous sommes l'exception qui confirme la règle. Il y a toutes sortes de choses qui entrent dans la vie de l'Église et qu'on cherche dans un bon désir peut-être de grandir, de faire les choses mieux. Mais ce n'est pas quelque chose qui découle, qui a été cherché, puisé à la source de l'Écriture. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, et même des gens qui sont bien enseignés, c'est ça qui est malheureux. Et peut-être ça nous touche aussi, il faut qu'on se pose la question. On voit beaucoup de gens qui ont des stratégies, des trucs pour intéresser, garder l'intérêt des gens qui sont là et pour attirer ceux qui sont du dehors. Alors bien sûr, on veut que ceux du dehors viennent entendre la parole. Mais rappelons-nous que la plupart du temps, dans la révélation biblique, ce ne sont pas les gens qui viennent écouter la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va auprès des gens. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de chant dans la réunion d'église, qu'il ne faut pas même avoir des cantiques modernes. Ce n'est pas qu'il faut avoir telle chose, ne pas avoir telle chose, ne pas avoir telle activité ou tout ça. Non, ce n'est pas du tout cela. C'est quel est le contenu? Est-ce que ça nous rapporte à la parole de Dieu? Et tout à l'heure, c'était bien de pouvoir lire ce cantique avant de le chanter. Pourquoi? Parce qu'on fait le lien avec ce que dit Dieu dans sa parole. Donc là, quand on entend, alors la mélodie est jolie, est très, très plaisante, mais en plus, les paroles ont vraiment un impact. Parce qu'on peut les lier avec quelque chose que Dieu dit. Donc Dieu se révèle ainsi. Et c'est ainsi, on va le chercher dans sa parole. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? N'est-ce pas? C'est que ce qui dirige dans l'Église, c'est la révélation de Dieu. Ce ne sont pas nos idées, ce ne sont pas nos traditions, nos habitudes, ce ne sont pas ce qu'on considère comme juste, comme décent. Tout ça. Non, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a tendance à nous déranger. Elle dérange nos habitudes. Elle dérange notre sens, notre sentiment de la décence. Elle dérange les auditeurs de la prédication. Parce que même si on a l'habitude d'entendre le message et tout ça, mais voilà que Dieu, par son Saint-Esprit, vient toucher notre cœur personnellement, des fois communautairement, d'une manière particulière, et il est en train de nous montrer certaines choses. On dit « Ah, j'ai jamais vu ça. Mais alors, j'étais sur une mauvaise voie ou je ne comprenais pas. » Non, elle dérange tout le monde dans l'Église. Et ça devrait en être comme ça. Je me rappelle quand je m'étais lancé dans la série de messages, vous rappelez les personnes que Jésus, les rendez-vous de Jésus. Et alors, j'avais une idée d'où j'allais, un peu dans quel sens j'allais aller. Mais au finish, en fin de compte, je suis arrivé complètement ailleurs, découvert des choses que je n'avais aucune idée était là, avec des passages, avec des exemples qui étaient énormément connus, comme Nicodème et ainsi de suite. On dit, mais on les connaît, on a tout vu là. Eh bien, on commence à creuser, on laisse Dieu parler et on s'aperçoit que non, en fait, il y avait encore des tas d'autres choses, des tas de richesses, des nuances, des beautés de cette la grâce multicolore de Dieu. Oui. Et donc, quand nous lisons que les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation, qu'ils voulaient sonder ces choses, ne pensez-vous pas qu'eux aussi, ils étaient bousculés? Bousculés. On imagine Ésaïe, il est là, et puis il sert de porte-parole à Dieu. Dieu lui dit, tiens, va voir le roi là. C'était un mauvais roi, vous vous rappelez? Et le roi, alors voilà, il faut qu'il annonce que la Vierge deviendra enceinte. Hein, mon pauvre Isaïe, il rentre chez lui. Enfin, je peux l'imaginer, probablement vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Hein, c'est la vision qu'Isaïe vit. Hein, on peut le voir. On peut imaginer Isaïe qui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait dire là? Qu'est-ce que tu m'as fait dire? Parce que c'est véritablement la parole de Dieu. Et Isaïe cherche, il sonde, il veut vraiment comprendre. Mais il lui est révélé qu'il ne comprendra pas complètement. Pourquoi? Parce que ces choses sont réservées pour la fin des temps, pour les temps derniers. Et la chose, oui, quand on regarde en termes humains, la chose est complètement ridicule. Complètement ridicule. Mais c'est la révélation de Dieu. Et donc, cette révélation divine, elle bouscule. Et si nous sommes bousculés par ce que Dieu dit, par ce que nous lisons dans la parole de Dieu, alors réjouissons-nous, parce qu'on est vraiment dans la bonne attitude. Acceptons d'être bousculés par la parole de Dieu. Non pas parce qu'on ne veut pas être bousculé par un genre de culte de la nouveauté. Ça, c'est le danger dans lequel on est. Il faut toujours trouver quelque chose de nouveau. Une manière nouvelle de dire les choses et tout ça. Non, mais la communication que Dieu donne de son salut, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que la chair peut imaginer. Et combien de fois on peut prendre la révélation de Dieu et on tire des conclusions, on tire des déductions, nous-mêmes, et là on est passé dans le registre de la chair. On revient à Isaïe. Imaginez Isaïe qui commence à dire « Mais la Vierge deviendra enceinte. » Et donc, oui, alors il faut que... Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que justement, et Dieu le dira par sa bouche plus tard, Dieu fait une chose nouvelle. C'est-à-dire une chose qu'on n'a jamais vue encore. Et donc, pauvre Isaïe, il est là bien bousculé. Et nous aussi, nous sommes bousculés. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. La vérité de Dieu, l'action de Dieu dérange. Et on n'a pas besoin d'avoir une vie fantastique, une vie mouvementée pour cela. Non, dans le normal de notre vie, dans le train-train de notre vie, on pourra dire Dieu est là et il dérange. Il est le souverain et il se plaît souvent à faire les choses d'une manière qui dérange. Pourquoi? Pour que ça soit clair que c'est lui qui fait. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, le prédicateur est là à prêcher, il a cet auditoire en face de lui, il dit « Ah, celui-là, là, c'est vraiment, là, vraiment en train d'impacter sa compréhension et tout ça. » Alors que l'autre, il est à des milliers de kilomètres de là, il n'a aucune idée, il n'entend même rien du tout. Et par contre, il y a quelqu'un d'autre qui peut-être fait tous ses efforts pour montrer qu'il n'écoute pas, mais chaque parole entre. C'est une puissance que l'homme ne peut pas diriger. Donc, voilà cette manière. Comment savoir la manière dont il faut réagir, à la fois au niveau individuel, au niveau communautaire? Eh bien, tout simplement en étant à l'écoute de Dieu. Dieu parle, je dois écouter. Comme on a fait la mention de Samuel, n'est-ce pas? Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Et là, en fait, on revient dans... La véritable position, c'est le souverain, le maître qui parle, celui qui écoute, c'est le serviteur. Je dois comprendre, je dois accepter. J'écoute et je sonde ce que j'entends, comme les prophètes faisaient. Je regarde si c'est en contradiction avec ce que Dieu a déjà révélé de lui-même. Et je partage la chose avec ceux et celles qui sont plus mûrs. Par exemple, quelqu'un avait donné le conseil que quand on étudie la parole de Dieu, tiens, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, ça vaut le coup de remonter dans les textes historiques de l'Église, non pas parce qu'ils ont une autorité particulière, mais parce que si ça n'est pas dans ce que Dieu a révélé à ses serviteurs dans le passé, il y a de grandes chances que ce qu'il a révélé à moi, qu'il n'a pas révélé à tous ces siècles d'histoire de l'Église, de son peuple, il y a de grandes chances que ça ne soit pas vraiment son message à lui. C'est pas toujours un test à 100% fiable, mais ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Et surtout, surtout, je m'approche de Dieu dans l'humilité de la prière pour qu'il m'éclaire sur ce qu'il dit. Comme les prophètes, comme les prophètes. Mais revenons à ces passages de Pierre, là. Le premier, là, 1 Pierre 1, 10, 12. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce. La grâce n'est pas une invention de l'homme. Elle bouscule. Elle n'entre pas dans le cadre de l'homme. Le Dieu de la Bible est un Dieu souverain. Et en fait, il est le seul Dieu souverain. Et ce n'est pas un slogan théologique, ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour se sentir bien, mais c'est une vérité glorieuse et réelle. Et réelle. C'est-à-dire que la grâce n'est pas ce que l'homme dit qu'elle doit être. La grâce, c'est ce que Dieu a révélé qu'elle est. Et il est impossible pour le moindre d'entre nous de prendre la grâce et d'arriver à la définir autrement que comme Dieu l'a définie lui-même. Et c'est quelque chose qui dérange, parce que la grâce n'est pas manipulable. Or, on aime bien être en contrôle. On aime bien que les choses soient comme on les comprend. Pourquoi est-ce que Dieu fait grâce à un tel, alors que, franchement, c'est un vaurien, ou même moins qu'un vaurien? Parce que Dieu fait grâce. C'est cela. Et on peut pas la manipuler. Ce n'est pas possible. Les prophètes n'ont pas échafaudé toutes sortes d'hypothèses sur ce qu'ils pensaient être raisonnable en vue de cette révélation un peu obscure. Non, ils ont donné une révélation qui parfois est obscure, même pour eux. Ils ont commencé à chercher, à sonder, à poser des questions. Ils voulaient comprendre. Mais remarquez qu'ils ne manifestent pas ce qu'on rencontre trop souvent aujourd'hui parmi les chrétiens. Ils ne savent pas. Ils comprennent qu'ils ne savent pas. Et je crois que c'est un trait français. On rencontre des gens... Oui, c'est plus marqué dans l'esprit français, qu'on se fait une idée de ce qu'on pense et tout ça. Et je me rappelle parler avec quelqu'un qui découvre la grâce d'une manière merveilleuse depuis quelque temps, là. Et à chaque moment, il dit, mais j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et alors, ce qui est le signe que cette personne est en train de grandir, c'est qu'il s'aperçoit de plus en plus qu'il ne sait rien. Et parce qu'il s'aperçoit qu'il ne sait rien, en fait, il sait toujours davantage. Et c'est vraiment merveilleux. Non, les prophètes, ils ont besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'ils sondent. Et c'est alors qu'ils leur révélaient quelque chose, que ce n'était pas pour eux-mêmes que ces choses leur étaient données. Dieu leur a ouvert l'intelligence et ils se sont soumis à cette révélation. La chose est importante à souligner, mes amis. Et je me rappelle, par exemple, la période où j'avais donné un enseignement sur les piliers de la grâce. Et la plupart des objections venaient parce que, non pas parce que ça n'était pas logique ou quoi que ce soit, mais parce que ça n'allait pas selon ce que les gens savaient ou pensaient savoir. Or, tout ce qui était révélé, c'était simplement la révélation de Dieu. Ah, c'était assez triste d'ailleurs. Mais voilà. Les prophètes acceptaient la révélation de Dieu. Quand on regarde l'autre texte, 2 Pierre 1, 21, là encore, les prophètes ne s'amusent pas à raconter n'importe quelle anecdote ou idée qui leur passe par la tête. Non, leur volonté n'entrait pas dans cet acte d'apporter leur message. On sent, même pour les apôtres, c'est la même chose, et Paul le dit, il dit en fait, la nécessité leur en est imposée. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et on se rappelle bien entendu Jonas. Jonas ne veut pas, parce qu'il sait en fait ce que Dieu va faire. Et ça n'entre pas avec son cadre. Il ne veut pas. Mais Dieu ne va pas se laisser impressionner par un petit prophète, même un petit prophète qui s'appelle Jonas. Et finalement, Jonas arrive à Ninive. Non. Ils n'étaient pas ces prophètes n'avaient pas une stratégie des actions, ou alors, en fait, ça les emmenait loin de l'Éternel, comme Jonas. Non, Dieu est souverain. C'est lui qui décide de donner ce message. Il passe par ces gens, par ces hommes qu'il a appelés. Leur cerveau est pleinement engagé. Il leur faut réfléchir. Mais le message vient de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Un autre élément à remarquer qui ressort surtout du premier passage de Pierre, c'est le message qu'il leur est donné de prophétiser, de communiquer, n'est pas simplement quelques prédictions sur le bien-être ou la guérison d'un tel. Aujourd'hui, c'est ça, les prophéties. C'est ça. C'est des choses par rapport au bien-être de l'homme. Mais là, non. Non. C'est quelque chose qui concerne ce que Dieu a fait et va faire. Et aujourd'hui, la prédication, c'est ça. C'est ce que Dieu a fait en Christ. Ésaïe, c'est celui dont le nom veut dire « l'Éternel sauve ». Et aujourd'hui, on voit que Dieu a effectivement envoyé celui qui sauve, qui est bien plus grand que Ésaïe. La prophétie de ces prophètes, elle entre dans le cadre de la grande promesse de la grâce, d'un sauveur qui vient accomplir le salut du peuple. Et c'est pour ça que la rébellion ou la déchéance du peuple d'Israël est importante. Parce que ce peuple doit rester comme le creuset d'où va venir, selon la chair, le Christ, celui qui est envoyé. Et c'est dans ce cadre de la grande promesse de grâce que ces hommes ont reçu la révélation que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour eux-mêmes. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans Ésaïe, dans notre passage d'Ésaïe. Regardez au verset 9. On revient à Ésaïe 1. Regardez au verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, eh bien nous serions complètement détruits. Et Ésaïe va faire la fixation presque sur cette histoire du reste. Du reste. L'homme ne suit pas la voie que Dieu veut qu'il suive. C'est l'impotence, l'impuissance de la loi. Mais Dieu ne va pas être démonté par cette rébellion de l'homme. Non, il y a le reste. Il fait quelque chose dans un peuple qui est connu de lui seul. Et cela va durer jusqu'au bout. Même encore aujourd'hui, la connaissance de l'Éternel vient à travers un reste. Parce qu'on voit même la connaissance de l'Éternel touche dans une période, elle touche toute une population et petit à petit ça devient religieux. Mais Dieu fait quelque chose. L'an dernier, c'était le 500e anniversaire de la Réforme. Voilà, plus aucune lumière pratiquement dans tout le monde connu à l'époque, mais Dieu fait ressurgir sa lumière. Si l'Éternel ne nous avait pas suscité un reste. C'est ça, l'espoir est avec Dieu. Et c'est ce que Dieu envoie ses prophètes révéler. Et donc, c'est pour nous quelque chose qui, d'un côté, nous dérange, nous bouscule plutôt, mais en même temps, quelque chose qui est un grand encouragement. Et surtout, c'est quelque chose qui va jusqu'au plus profond de cette relation entre Dieu et son peuple. Parce que, imaginons un moment, voyez, on n'est pas simplement en train de faire de la théologie, mais imaginons un moment que Dieu ne se soit pas révélé. On connaît la déduction. Ou imaginons un moment qu'il ne se soit pas révélé comme un Dieu de grâce, un Dieu qui est compatissant. Il n'y aurait pas de bonne nouvelle du salut, pas d'évangile. Et imaginez qu'il ne soit pas révélé comme un Dieu juste qui punit le péché. Est-ce que cela aurait été bien? Mais pas du tout. Non, parce qu'il n'y aurait jamais eu de Christ pour ôter le péché. Et le péché aurait régné, hein, comme on a dit tout à l'heure, le règne du péché, c'est une bonne expression, enfin c'est une expression terrible, mais une expression très juste. Le règne du péché, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça serait l'enfer sur terre. Mais non, Dieu s'est révélé. Et donc, quand on entend des mots comme prophétie d'Ésaïe, la vision que la parole qu'Ésaïe a vue, alors, sans parler, on entend ces mots et on parle, ça nous parle tout de suite de grâce et ça nous invite à l'adoration, au fait que voilà le Dieu qui s'est révélé. Qui s'est révélé. Et ça même, c'est une grâce. On ne le mérite pas, on ne l'a pas demandé, on ne le voulait pas, il l'a fait. Non seulement il est merveilleux d'être sauvé de ses péchés, mais il est encore plus merveilleux d'être réconcilié avec ce Dieu si merveilleux. Ce Dieu qui est vraiment autre que n'importe quoi d'autre que les hommes peuvent imaginer. Et donc c'est là qu'on peut dire, alléluia, venons, adorons, venez, adorons le Seigneur. Parce que en Christ, il s'est révélé comme le Dieu qui est celui que même quelqu'un comme Ésaïe, rien que par son nom, annonce déjà. Et quand nous allons vers les gens qui ne le connaissent pas encore à salut, qui ne sont pas libres de ce règne du péché pour pouvoir adorer le Seigneur, nous pouvons leur annoncer celui qui sauve, le Dieu qui sauve, que Dieu lui-même sauve. Donc réjouissons-nous et soyons prêts à être bousculés, à être remis en question dans notre marche avec le Seigneur, et que sa gloire se voit à nos yeux, comme elle s'est vue, comme elle a été vue par ses prophètes d'antan, quand il posait ces questions interloquées au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui est en fait Dieu, qui n'est pas un homme, qui est bien plus que cela. Amen.